Radio Galère 88.4. Vous êtes comme chaque semaine à l'écoute d'une heure en Palestine. Alors nous commençons cette émission. C'est vrai qu'il y a rarement de bien bonnes nouvelles, mais là c'est une Noël qui nous attriste particulièrement. Nous, le mouvement de solidarité avec la Palestine, présentons toutes nos condoléances, à la militante politique Khalida Jarar. Khalida est une avocate, elle était aussi députée au Parlement palestinien. Elle a été à maintes reprises arrêtée et détenue en détention administrative par le colonialisme israélien. Et il y a quasiment 2 ans, elle a encore été réarrêtée, gardée sans accusation pendant très longtemps, jusqu'en mars dernier, où finalement un tribunal militaire tenté d'abord de la condamner à 2 ans de prison sous le fallacieux prétexte d'actes terroristes. Et puis, sa accusation était tellement loufoque qu'elle a été abandonnée et elle a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement pour activité politique. Sa peine se terminait dans 2 mois. Et hier, nous avons appris lundi, le décès de sa fille, Soua, âgée de 31 ans, qui a été inhumée hier, mardi 13. Une demande a été lancée internationalement auprès des autorités israéliennes pour demander la libération anticipée, ou au moins pour permettre à Khalida Jarar d'assister aux obsèques de sa fille. Et vous pouvez l'imaginer, cette demande a été refusée. Il y a 2 ans, alors qu'elle était déjà incarcérée, le père de Khalida Jarar est décédé et là, déjà, l'autorisation d'assister aux obsèques a été refusée. Nous ne pouvons que manifester notre solidarité avec cette famille, avec les amis de Soua décédés et puis avec tout le peuple palestinien et tous les prisonniers politiques et leurs familles, car malheureusement, ce cas est fréquent. Quand les proches de la famille décèdent, eh bien évidemment, les prisonniers politiques palestiniens ne sont pas autorisés à participer. Juste une pause et un hommage à tous ces combattants pacifiques ou armés qui luttent pour la dignité de leur peuple.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب.
Oui, cette chanson, ce qui est une chanson que j'aime beaucoup et que je passe fréquemment à l'antenne, a été écrite, le texte a été écrit par un grand poète palestinien, Tawfiq Zayad, qui était le maire communiste de la ville de Nazareth. Et c'est un hommage aux combattants. Vous savez, il y a 1000 façons de combattre, la résistance politique, la résistance armée et toutes ces formes de résistance, la résistance culturelle aussi. et toutes ses formes de résistance sont reconnues par le droit international à un peuple opprimé qui se bat pour sa liberté. Et on passe tout de suite à une autre forme de résistance à travers un article qui s'intitule « Il n'y a rien d'amical dans l'apartheid israélien ». C'est un appel qui a été lancé, une lettre ouverte de 200 clubs sportifs palestiniens. Lettre qui est adressée à l'Atlético de Madrid et à l'Inter de Milan, mais qui pourrait tout aussi bien être adressée, et sans doute une autre lettre viendra, au Paris Saint-Germain et au football club de Lille, LOSC, qui, ces quatre clubs, doivent jouer des matchs de champions dans l'état colonial israélien. Que dit donc cette lettre ? Elle dit « Nous, les clubs sportifs palestiniens sous-signés, vous écrivons pour vous demander d'annuler votre match « amical » entre guillemets dans l'apartheid d'Israël prévu le 8 août 2021. En tant que collègues et en tant qu'athlètes partageant une passion pour le sport et le jeu franc, nous ne voulons pas voir votre passion et votre nom maltraités par qui que ce soit et surtout pas par la propagande de l'apartheid d'Israël dans sa tentative désespérée de blanchir par le sport les violations ininterrompues par cet État du droit international et ses crimes contre notre peuple palestinien. Ce match est organisé par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, un ambassadeur autoproclamé d'Israël qui dit consacrer ce chapitre de sa vie à la promotion d'Israël. Adams s'est associé, comme il l'a fait pour de nombreux événements antérieurs de blanchiment par le sport, au Comtem Group israélien qui compte parmi ses clients le gouvernement israélien et des sociétés de la colonisation de peuplement israélienne illégale. Au cours du seul mois de mai, les soldats israéliens ont tué deux joueurs de football palestinien, Saïd Odeh, 16 ans, du Balata Football Club en Cisjordanie, et Mouad Nabil Al-Zahanin, du Beit Hanoun Football Club à Gaza. Israël a mis fin à la carrière de dizaines d'athlètes palestiniens. Israël restreint nos libertés de mouvement, ce qui signifie que nous ne sommes pas libres de voyager pour nous entraîner ou jouer entre sportifs palestiniens. Cela signifie aussi que nos chances de voyager pour jouer contre d'autres équipes régionales ou internationales sont très limitées. Le racisme est endémique dans le football israélien. Par exemple, le fan club du Bétar de Jérusalem, connu sous le nom de La Famille, scande régulièrement le slogan « Mort aux Arabes ». Ils ont aussi demandé à un joueur chrétien du Nigeria de changer son nom à consonance trop musulmane. Et ils ont mis le feu au bureau du club après qu'il ait engagé deux joueurs musulmans de Tchétchénie. Comme le rapporte le New York Times, des fans du Beitar Jérusalem entonnent le slogan « Beitar, pur pour toujours », ce qui, selon le Times, a rappelé ici à beaucoup la purge des athlètes juifs par l'Allemagne nazie en 1933 et suscité à l'échelle de l'État des discussions sur le racisme sur et en dehors du terrain. Mi-mai, alors que les casseurs fascistes de l'extrême droite israélienne organisaient des lynchages contre les Palestiniens, le groupe La Famille a demandé à ce que l'on s'introduise par la force dans les maisons des Palestiniens et qu'on les poignarde. Commencez à cogner sur les portes, une par une, déclarait-il. Ce racisme n'est pas limité au football, mais institutionnalisé dans l'État d'Israël, que d'éminentes organisations internationales et israéliennes de défense des droits de l'homme ont très récemment décrit comme un régime d'apartheid. Le régime d'apartheid d'Israël et toutes ses composantes, notamment le football, sont profondément complices des violations du droit international. La Fédération d'Israël de football, International Federation Football Association, refuse d'exclure les équipes des colonies illégales de peuplement qu'elle inclut dans ses ligues, tout en continuant de défendre ses équipes contre toute sanction au sein des instances internationales. Et la lettre se termine par un appel en rappelant qu'en 2018, l'Argentine avait annulé son match amical avec Israël et que l'attaquant Gonzalo Higuain avait déclaré qu'ils avaient bien fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, demandent ces 207 clubs palestiniens, nous demandons Atlético de Madrid, Inter de Milan, mais aussi, pour nous en France, PSG et LOSC, club lillois, nous vous demandons de bien faire ce qu'il faut également. Annuler ce match de blanchiment par le sport. Et là, nous revenons en France. Nous arrivons à Cannes avec deux événements. Alors d'abord, un film qui s'appelle en anglais Let It Be Morning et en français Il y a eu un matin, qui défraye la chronique par la lettre envoyée par les 12 acteurs palestiniens. En effet, ce film a été réalisé par Eran Kolrin, un réalisateur israélien, d'après une nouvelle de Sayed Kashua, un écrivain palestinien de nationalité israélienne, et il a été sélectionné pour le Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Dans une lettre envoyée à la direction du festival par les membres palestiniens, ceux-ci déclarent qu'ils boycotteront l'ensemble de l'événement et ils expliquent pourquoi. Nous, l'équipe du tournage du film Let It Be Morning, souhaitons faire le communiqué suivant concernant notre décision de ne pas participer au Festival de Cannes. Et vous le savez tous, là c'est une aparté que je fais, le Festival de Cannes est quand même l'événement mondial du cinéma. Donc cette décision est particulièrement courageuse et il est important de la saluer. L'équipe, donc, les 12 artistes déclarent « Nous soutenons notre ami et camarade Eran Kolrin, le réalisateur, et nous sommes fiers d'avoir participé au projet de film inspiré du roman éponyme de Sayed Kashua, Let It Be Morning. Nous sommes heureux que ce film ait été sélectionné à Cannes. Mais il est le fruit d'une production collective qui décrit l'état de siège que nous vivons, comme l'a écrit le célèbre poète palestinien Mahmoud Darwish. Cet état de siège se manifeste par des murs, des checkpoints, mais aussi par des obstacles matériels et psychologiques, ainsi que par des politiques d'asservissement et de violation de l'identité des Palestiniens et Palestiniennes, de leur culture, de leur liberté de mouvement, ainsi que de leurs droits humains élémentaires. C'est cet état de siège que le film aspire à questionner, et c'est ce que, vers quoi nous, l'équipe du film, avons décidé collectivement d'en orienter le contenu. Pourtant, nous ne pouvons ignorer la contradiction qui consiste à classer ce film au Festival de Cannes comme un film israélien, pendant qu'Israël continue, et ce depuis des décennies, sa politique coloniale et ses pratiques de purification ethnique, d'expulsion et d'apartheid contre nous, le peuple palestinien. Depuis 1948, les Palestiniens en Palestine historique et dans la diaspora ont dû faire face à une purification ethnique constante et à une fragmentation coloniale à travers les différentes restrictions imposées par Israël. Les gouvernements et institutions culturelles du monde entier ont suivi ces restrictions contre nous. Les Palestiniens en Israël, à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza et ailleurs dans le monde. Leur but ? Nous diviser pour nous détruire en tant que peuple, nous fragmenter et nous séparer de notre histoire commune. Systématiquement, l'industrie du cinéma nous assigne, nous et notre production, à une étiquette israélienne qui contribue à imposer aux artistes palestiniens une situation inacceptable, la colonisation sioniste qui nous opprime en niant notre langue, notre histoire et notre identité par la censure et la promulgation de lois racistes. Nous écrivons ces lignes alors que nous sommes témoins d'attaques quotidiennes par des colons racistes et extrémistes protégés par la police et l'armée israélienne dans des villes et des quartiers palestiniens. Ces attaques illégales qui visent nos fils et nos filles se perpétuent. Nous refusons de représenter un État qui a permis et encouragé les récentes vagues de violence, car cela reviendrait à normaliser l'apartheid et à accepter cette violence, ainsi que la négation des crimes à l'encontre des Palestiniens. Notre refus de participer au Festival de Cannes dans la catégorie film israélien n'est pas seulement un geste symbolique. Nous nous opposons fermement à toute participation dans ce genre d'événement qui justifie notre exclusion et notre invisibilisation en tant que Palestiniens et Palestiniennes. Nous sommes unis pour vous adresser ce message et demander aux institutions artistiques du monde entier d'amplifier les voix des artistes palestiniens, de s'opposer à l'État colonial israélien et de soutenir la résistance du peuple palestinien, son droit à l'existence et à la créativité. Ce que soutient le réalisateur Kolrin, citoyen israélien, ils ont décidé d'être absents comme acte politique de protestation contre l'invisibilité culturelle. Je comprends cela et je soutiens leur décision. Je suis triste qu'ils ne soient pas là pour célébrer leur superbe travail, mais je respecte leur décision. Donc tout cela s'inscrit bien évidemment, dans, même si c'est de loin, dans la campagne de boycott de l'État d'Israël jusqu'à ce que les revendications légitimes du peuple palestinien soient prises en compte et respectées. Il est important de rappeler qu'il faut soutenir le cinéma palestinien et notamment, et c'est un appel de la campagne BDS, les quatre films suivants qui font partie de la sélection du festival cette année. C'est le film Alpes de Nael Khleifi, Concrete Land de Asmahan Berkat, Trois promesses de Youssef Srouji et ce projectionniste de Alex Bakri. Et puis, une seconde information en provenance aussi du Festival de Cannes. Un film d'un réalisateur israélien encore, Nadav Lapid, et un film qui a de grandes chances, en tout cas, qui a bien frappé les spectateurs et le jury de Cannes. Il s'appelle Le genou d'Aed. Aed, vous savez, c'est le prénom de Aed Tamimi. Et le réalisateur israélien Nadav Lapid, âgé de 46 ans. Donc, ceci est un article qui a été... c'est la transcription de... d'un article de LCI, la chaîne d'information. Nadav Lapid, 46 ans, donc le réalisateur, qui a fortement secoué et impressionné le Festival de Cannes. En lice pour la Palme d'Or, il s'agit d'un film en partie autobiographique, politique et poétique, toujours sur le fil du rasoir, entre manifeste politico-cinématographique, documentaire radical et parabole théâtrale. La scène du début est aussi violente que sordide. Emprisonnée par l'armée d'occupation, convoquée dans un bureau qui ressemble à un commissariat, la jeune militante palestinienne Aed est confrontée à son passé. À 16 ans, elle a giflé un soldat. Sa sœur et son frère ont été tués par l'armée, son père jeté en prison. Pour en finir avec ses activités contre l'ordre établi et la machine répressive du gouvernement, un agent de l'État lui tire une balle dans la rotule pour l'assigner à résidence à vie. Ainsi, le genou d'Aed fait sa grande entrée dans l'histoire. Cadrée en gros plan, cette partie clé pour chaque mouvement du corps se met à danser et à chanter. Où est ta victoire dans le martyr que la folie commence. Je passe un extrait de l'article et dans un chapitre qui s'appelle « Cet état qui vomit tout ce qui est différent », il est écrit « C'est sur ce terrain... » Plutôt sable mouvant que Nadav Lapid, lauréat de l'Ours d'Or 2019 pour Synonyme, construit son scénario d'une efficacité redoutable et diabolique. Quand Y. Yahalom raconte à Yahalom ses terribles expériences de bizutage et de torture pendant le service militaire, personne ne peut deviner son rôle dans cette histoire. Dans cet espace entre ce qu'on affiche et ce qu'on cache, Nadav Lapid déconstruit la société israélienne et cet État qui vomit tout ce qui est différent. Certes, le point de vue du film est très clair, mais malgré ses charges répétées contre la politique de l'État d'Israël, il évite d'être manichéen. Il met en évidence à quel point les citoyens israéliens s'entre-déchirent et s'auto-détruisent et fait apparaître le degré de méfiance, de mépris et d'agression assimilé par chacun à cause de la politique d'oppression imposée sur les Palestiniens, mais aussi imposée au sein de la société israélienne qui compte 20% de citoyens palestiniens, qui sont des citoyens de seconde zone, mais qui comporte aussi au sein de cette société israélienne des juifs israéliens, dont certains sont considérés comme pas tout à fait juifs, ou moins juifs que les autres, et ce sont en particulier... Les Mizraïm, ces juifs orientaux, ce sont aussi ceux que l'on appelle à tort les Falachas, qui viennent d'Éthiopie et qui subissent le racisme intrinsèque à une société fondée au départ par les Européens blancs, qui a un mépris pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'oriental, au noir et à l'arabe. On passe maintenant à la suite de ce qui était sportif tout à l'heure, on retrouve le même sinistre personnage, ce milliardaire israélo-canadien Sylvain Adams, qui investit ses milliards, ses millions de shekels, dans le sport pour, et il le dit clairement dès le départ, pour donner une autre image de l'État d'Israël. Ce n'est pas pour l'amour du sport. Donc, il finance les matchs de foot, il finance le recrutement d'un sportif, un cycliste sur le déclin, Fromme pour le Tour de France sur le déclin, mais aussi avec de sérieuses casseroles et accusations de dopage. D'ailleurs, je ne sais même plus dans quel méandre du classement général du Tour de France on trouve Fromme. Mais les étapes continuent à se dérouler, même si aujourd'hui c'est un jour de pause, comme tous les lundis. Et il reste encore quelques jours pour que la 108e édition du Tour de France et ses 21 étapes et les 3600 km à travers la France se terminent sur les Champs-Élysées. Cette compétition sportive fait partie du patrimoine culturel français. Elle devrait donc résister aux opérations de propagande du régime israélien d'apartheid qui, sous couvert d'une loi dite « loi de l'état-nation du peuple juif », n'accorde pas les mêmes droits aux citoyens israéliens suivant leur origine ethnique et leur religion. En effet, pour la deuxième année consécutive, une équipe israélienne appelée Israel Startup Nation sera sur la ligne de départ. C'est le milliardaire canadien Sylvain Adams, principal financeur de cette équipe, qui a souhaité contribuer au rayonnement d'Israël en s'offrant cette année Chris Froome, plurivainqueur du Tour de France. Mais ça, c'était il y a longtemps. Alors que Chris Froome s'engage à rouler pour Israël, les expulsions continuent pour les Palestiniens de Jérusalem et à Gaza. Les Palestiniens essaient de se reconstruire après les récents bombardements qui ont décimé des familles entières et détruit de nouvelles infrastructures. Le milliardaire Sylvain Adams, qui aime se faire appeler l'ambassadeur autoproclamé de l'État d'Israël, joue la carte du sport pour changer l'image guerrière qui colle à Israël et favoriser sa normalisation avec le monde arabe. Il assumait clairement vouloir promouvoir sa marque Israël dans une vidéo. Ainsi, le gouvernement israélien trouve là une nouvelle occasion de détourner l'attention de sa politique criminelle, en particulier dans le contexte international des fortes protestations après les tentatives d'expulsion dans le quartier de Sharjara à Jérusalem, les bombardements sur Gaza qui ont fait plus de 200 morts et des centaines de blessés, dont de nombreux enfants et des milliers d'arrestations. Face à cette réalité, colonisation, expropriation, destruction de maisons, crimes de guerre et d'apartheid, la participation d'Israël au Tour de France constitue une opération de blanchiment inacceptable. La campagne BDS France dénonce cette opération de propagande honteuse et appelle le Tour de France à ne pas être complice de l'apartheid. N'ayant cesse de développer la campagne BDS boycott, désinvestissement, sanctions, campagne qui inclut le boycott sportif de l'État colonial et d'apartheid israélien. Les personnes de conscience sont appelées à faire fleurir les drapeaux palestiniens sur le Tour de France pour rappeler à cet état d'apartheid qu'il n'est pas le bienvenu en France. Il y a déjà eu des mobilisations sur le critérium du Dauphiné et cette solidarité s'est amplifiée tout au long des différentes étapes du Tour de France. Pour notre part et dans notre région, mercredi dernier, au cours de la 11e étape, une petite équipe de BDS Marseille et BDS Provence s'est retrouvée au pied de la première difficulté, si on peut dire, de quatrième catégorie de l'étape, au pied de la côte de Gordes, dans un lieu dit Les Imbert, où était installée la banderole Boycott Israël Apartheid, la grande banderole sur un angle de route. Et en face et au milieu se trouvaient des drapeaux palestiniens qui flottaient haut et fort dans le léger vent qui leur permettait d'être visible de début de la côte et pour toutes les voitures de la caravane et pour tous les coureurs du peloton qui est passé groupé à cet endroit-là. Nous étions à peu près à 50 km du départ et bien loin encore des deux montées du Ventoux. L'ambiance était chaude comme le temps et chaleureuse. Des accueils sympathiques, en particulier d'une touriste suisse qui est venue manifester sa solidarité à plusieurs reprises. Et nous avons eu le plaisir de voir les voitures marquées de ce que nous appelons Israel Apartheid Nation, la nation de l'apartheid israélien, et qui sont passés devant les drapeaux et devant la banderole, et puis aussi les couleurs. Il y a plusieurs photos qui circulent sur les réseaux sociaux et des vidéos avec les images des drapeaux qui flottent dans le vent et bien vus par les différents membres de cette équipe israélienne. On a l'habitude de dire que les sportifs sont parfois des mercenaires et il y a des sportifs de tous les pays, de différentes nationalités dans différentes équipes. Mais dans une équipe qui se revendique une équipe israélienne, qui fait la promotion de la société israélienne, il y a un seul coureur israélien. Donc, évidemment, l'étape suivante qui partait de Nîmes jusqu'à Carcassonne, me semble-t-il, a aussi vu une très belle action des collectifs BDS, mais aussi de toutes les associations qui se sont rassemblées pour manifester leur opposition à la participation de cette équipe de l'apartheid. Et avant de terminer sur ce sujet, et avant de faire une longue pause, on va peut-être revenir sur ce qui se passe autour de Jérusalem. Ensuite, nous ferons une pause musicale et nous appellerons Zachary Aodé, qui est le coordinateur de la coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem, pour qu'il nous parle. Alors, ça va être un exercice acrobatique avec un direct depuis Jérusalem et un direct en anglais en plus qui nécessitera une traduction, non pas simultanée, mais quasiment en direct, quasiment simultanée. Mais tout d'abord, vous savez qu'il y a cette grande bataille qui est menée autour de Jérusalem par les Palestiniens, mais pas uniquement les Palestiniens de Jérusalem, puisque les derniers affrontements qui ont eu lieu, les derniers massacres qui ont eu lieu à Gaza ont été directement programmés par la situation, sont directement venus à la suite du grand projet sioniste de colonisation de Jérusalem, et qui consiste essentiellement à virer la population du village de Silwan, qui est situé, alors on a déjà fait une émission avec un juriste qui revenait de Palestine et qui avait travaillé sur le cas de Silwan, pour l'association des droits humains Al-Haq. Mais il y a aussi un second quartier qui est menacé depuis des décennies, c'est le quartier de Sharjara. Il y a aussi le Mont des Oliviers, qui est dans le viseur des colons et de l'État israélien. Et la bataille se mène sur le plan juridique, elle se mène sur le plan de l'information aussi. Et il y a un journaliste israélien qui a mené une enquête fort intéressante. Il s'appelle Uri Blow, Shomrin. Uri Blow, il travaille, il est basé à Washington. Et il a un partenariat avec l'association Shomrin, qui est une organisation d'enquête israélienne, une ONG. Et il a travaillé donc sur le financement. L'article s'appelle « La piste de l'argent derrière la bataille d'expulsion de Jérusalem ». L'un des déclencheurs de la récente conflagration à Jérusalem-Est a été un effort pour expulser les familles palestiniennes du quartier de Sharjara. Comme dans tant de cas immobiliers sur la soi-disant ligne verte, c'est la ligne de démarcation qui délimite Israël de 1948 du territoire de Cisjordanie qu'il occupe depuis la guerre de 67, les questions de propriété sont obscures. Les tentatives pour identifier les propriétés de l'entreprise derrière l'achat de ces 6 maisons et la source des fonds de l'entreprise conduisent à une mosaïque complexe d'obscures sociétés étrangères. En effet, ces maisons sont, paraît-il, achetées par des sociétés cachées, des sociétés très extrêmement obscures, c'est ce qu'il va essayer de démontrer. Cette mosaïque est si complexe qu'il est impossible de savoir avec certitude qui a financé les expulsions planifiées qui ont conduit à la violence. Ce qui est clair, c'est que ce projet immobilier avait des millions de dollars d'investissement. Les entreprises impliquées avaient des liens avec le Delaware et les îles Marshall, des paradis pour les entreprises en raison de leur faible taux d'imposition, ainsi qu'avec le New Jersey, les Pays-Bas et Israël. Seymour Brown, un avocat new-yorkais, est répertorié en tant que responsable dans la plupart de ces sociétés dans les archives publiques. La couche inférieure de cette pyramide d'entreprises, celle qui mène activement une bataille juridique pour expulser les familles palestiniennes, est Nahalat Shimon Ltd., une entreprise israélienne créée en avril 2000. L'entreprise a acheté le terrain de Sharjara sous-jacent à ses 6 maisons pour 3 millions de dollars en 2003 à des descendants des propriétaires juifs qui les avaient acquis à la fin du 19e siècle. Le visage public Nahalat Shimon, dans plusieurs audiences et dossiers judiciaires israéliens remontant à 2010, était Tzazi
Tsai, pardon, Mamo, qui gère ses propriétés. Mamo est en grande partie inconnu du grand public israélien, mais il est bien connu des groupes promouvant la colonisation juive en Cisjordanie occupée pour sa forte implication au cours des trois dernières décennies dans l'achat de terrains et de bâtiments à Jérusalem-Est et ailleurs. En 2012, Uri Blo a mené une enquête publiée dans le quotidien israélien Haaretz montrant que Mamo, qui vit dans l'implantation d'Ofra à Cisjordanie, a aidé à établir au moins 20 sociétés qui ont effectué divers achats de terres en Cisjordanie et à Jérusalem-Est à partir du milieu de l'année, des années 1990. Parmi eux se trouvent Al-Watan, nom arabe qui signifie « la patrie », et Bnei Rachel, en hébreu « les fils de Rachel », toutes deux enregistrées auprès de l'administration civile d'Israël qui opère en Cisjordanie. Lipens, qui est enregistré aux États-Unis, et Space Real Estate, une société israélienne. Le rôle de Mamo diffère d'une entreprise à l'autre, mais implique généralement l'achat des propriétés et les expulsions de leurs occupants. La plupart des entreprises qu'il a créées sont enregistrées à l'étranger. Mamo, contacté par téléphone, a refusé de parler aux journalistes. Les dossiers relatifs à Nahalat Shimon, Nahalat signifie « domaine 2 » en hébreu, au registre israélien des sociétés, ne mentionnent qu'un seul nom, Brown, qui est répertorié comme directeur. Né à Toronto, Brown a presque 60 ans et est associé au cabinet d'avocats new-yorkais Brown et Goldberg. Ce cabinet est spécialisé en droit fiscal international et en tutelle. Et a en plus de plusieurs liens avec la mosaïque d'entreprises liées à Sharjara, le nom de Brown est également apparu des dizaines de fois dans des documents internationaux divulgués ces dernières années, y compris les Panama Papers. Il est également répertorié comme directeur de diverses sociétés offshore sans lien dans des endroits comme la Barbade et les Bahamas. Brown n'a pas répondu à plusieurs messages laissés dans son entreprise sur la messagerie vocale et avec une secrétaire. Mamo et Brown ne sont pas les propriétaires de Nahalat Shimon. Les actions de la société appartiennent à une autre société israélienne connue sous le nom de Shimon Azadik Holding, LTD, qui est également... a également été créé en 2000. Shimon Azadik, ou Siméon le juge, était un grand prêtre juif à l'époque du Second Temple, dont la tombe est près du quartier, maintenant appelé Shajara. Les quelques documents disponibles sur la holding font état d'un individu, Seymour Brown, qui en est le directeur. À ses débuts, Shimon Azadik Holding appartenait à une fiducie gérée par une société appelée Trent, qui a été créée en 1997 au Liberia, puis déménagée aux îles Marshall en 2000. Par la suite, les actions de Shimon Azadik Holding ont été transférées en partenariat basé sur Shimon Azadik Portfolio. Ce partenariat est établi en 2002 et son adresse inscrite est celle d'un cabinet d'avocats de New Jersey spécialisé en droit des sociétés. C'est donc un vaste mélange de différentes sociétés dans différents paradis fiscaux qui arrivent à acheter des propriétés sous différents noms pour tromper les propriétaires ou pour mener ensuite des opérations d'expulsion des Palestiniens dans les quartiers de Sharjara, de Silwan et partout ailleurs en Cisjordanie. Donc, on fait une pause. Et on essaye pendant ce temps d'appeler Zachary Yaodé à Jérusalem.
Qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur.
Voilà, nous avons peut-être en ligne, je ne sais pas si la connexion a été faite. Nous attendons donc la connexion avec Zakaria Odé, coordinateur de l'ONG La Coalition Civique pour les Droits des Palestiniens.
Allô?
Allô, Zakaria Odé?
Yes.
Okay. You are online now. Please, can first thank you very much to accept to speak with us. We are in Radio Galère, which is a local radio in Marseille. And we are very happy to welcome you. Donc, merci de nous accueillir, d'accepter de parler avec nous. Nous sommes sur Radio Galère et nous sommes très heureux de vous accueillir. Please, Zakaria, can you introduce yourself and your NGO?
Yes, my name is Zakaria Odé. I am the coordinator of the Civic Coalition for Palestinians' Rights in Jerusalem.
Donc,
it's a network of human rights organizations.
Ok, donc je suis Zakaria Odé, je suis le coordinateur de l'ONG La Coalition Civique pour les Droits des Palestiniens à Jérusalem. C'est un réseau d'ONG qui travaille dans les droits humains à Jérusalem.
Our work and focus on the human rights situation in East Jerusalem.
Nous focalisons notre travail principal est sur les droits humains pour les citoyens à Jérusalem.
We monitor and we document the Israeli violation and the Israeli policies in occupied Jerusalem.
Nous monitorons, nous suivons toutes les violations des droits humains menées par les Israéliens contre les populations palestiniennes à Jérusalem.
We provide legal aid. We have a team of lawyers who we provide a legal intervention to try to support the people and the Palestinians and their presence in East Jerusalem.
Alors, nous fournissons une aide juridique que nous mettons à disposition aussi des juristes, des avocats, pour aider les familles palestiniennes victimes à Jérusalem-Est.
We do a lot of international legal advocacy. We work with the United Nations, with the UN mechanisms. We work with the EU, with the European States, Parliament and the diplomatic missions.
Nous travaillons aussi avec les instances internationales, les ONG, mais aussi avec les Nations Unies, avec l'Europe, le Parlement européen, les différentes instances européennes. Sans doute to furnish information or you have a direct relation with them.
Because we believe our problem is a political problem, is not a legal issue. So international community is responsible and they have the duty to stop the Israeli violations and Israeli crimes in occupied Jerusalem.
Oui, c'est parce que nous savons que notre problème est un problème politique que nous tenons à mettre comme la responsabilité de la communauté internationale, des États, afin qu'elles interviennent pour mettre un terme aux violations des droits par les autorités israéliennes. Ok, thank you. Please, can you give us some information now about the situation in Sharjara? Because it was on the focus a few weeks ago, but now we don't have any more information.
Yeah. This is the work that we do as a coalition, a human rights and legal coalition in Jerusalem.
Yeah. So, c'est le travail que nous faisons en tant que coalition des organisations autour de Jérusalem. Yes, go on. What is the situation now in Silwan, in Sharjara?
Yes, you know, Sheikh Jarrah, it's a neighborhood in the heart of Jerusalem. We are talking about a community of 73 families. The people have been living there since 1956, where Jordan gave the land and UNRWA, they built homes for the Palestinian refugees from 48.
Sharjara est un quartier au cœur de Jérusalem. Nous parlons là d'une communauté de 73 familles installées depuis 1966. Ce sont des réfugiés venus de la partie aujourd'hui occupée, qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Et ils se sont installés sur une partie de terre qui leur a été donnée par la Jordanie, qui à ce moment-là était présente, occupée la Cisjordanie. Et les maisons ont été construites par l'UNRWA, qui est l'Office international pour le travail et la protection des réfugiés palestiniens. Yes.
The Palestinian families have been living there. They were living there since 1956 until 1972, after Israel occupied East Jerusalem. Two settler organizations, they start claiming that they own the land since 1885. And they started taking the Palestinian families to court in order requesting to evict them from the neighborhood.
Ces familles ont vécu là donc depuis 1966 jusqu'en 1972, you said? Mr. O'Day, you said until 1972?
Yes, until 1972, when the two Israeli Jewish settlers, they claimed they own the land since 1885.
Yeah.
And they start taking the Palestinian families to court and requesting their eviction from the neighborhood.
OK. Donc, ces 73 familles ont vécu à Sharjara de 1966 jusqu'en 1972 sans aucune difficulté, après l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par les troupes israéliennes. Et c'est en 1972 que deux organisations juives de colons ont prétendu être propriétaire de ces terrains avoir les titres de propriété de ces terrains depuis 1885 et ont donc traîné ces 73 familles devant les tribunaux pour exiger leur expulsion. Yes, Zakaria?
So they use a vague document. It has no original on the archive where they make their claim that they own the land. You know, the lawyer of the Palestinian family, they went to Turkey to look in the archive where they didn't find any original of the document of the settlers at the archive in Turkey, you know, because the land ownership archive is in Turkey. In spite of that, the Israeli government always, they ruled in favor of the settlers against the Palestinian families.
Ok, very interesting information. Alors, les avocats de ces familles se sont rendus en Turquie puisque dans les années 1885, c'était l'Empire ottoman. Et donc, ils sont allés fouiller dans les archives de l'Empire ottoman pour chercher le document original qui avait dû être enregistré à l'époque. L'Empire ottoman avait quand même des archives et aucune trace de l'original de ces documents. Malgré cela, malgré qu'il n'ait pu, que les documents fournis devant le tribunal israélien n'aient pas pu être authentifiés, eh bien, la justice israélienne a en permanence donné raison à ces organisations de colons pour, et a conclu au fait que les 73 familles palestiniennes devaient être expulsées. Yes, go on, Zakaria. Allô? Allô?
In 2008 and 2009, they managed to evict 13 families, 13 households, Palestinian households from the neighborhood of Sheikh Jarrah.
En 2008 et en 2009, ils ont réussi par la pression à expulser 13 familles, 13 communautés. Alors, ces familles sont des grandes familles. Ce n'est pas le papa, la maman et les deux ou trois ou quatre enfants. C'est les parents, les grands-parents, les frères et sœurs qui habitent, les frères surtout, et leurs familles qui habitent dans les mêmes immeubles. 13 familles, donc, ont été expulsées du quartier de Sheikh Jarrah. Yes?
Today, 19 families, 78 people, including 28 children, they have are facing eviction as well. There are eviction order by the Israeli court where they will be evicted at any minute or any day.
Alors aujourd'hui, ce sont 19 familles, 78 personnes et presque une trentaine d'enfants qui sont aujourd'hui menacés d'expulsion sans aucune proposition de relogement par les autorités israéliennes. Yes.
So the case of Sheikh Jarrah has been the longest legal battle. Now it's nearly 50 years that they are trying to evict the families. In fact, it's not a legal battle, but it is a political battle. You know, because the part of the Israeli settlers, the Israeli government has been targeted Sheikh Jarrah neighborhood because there is a plan to build a settlement of 220 housing units in replacing of the Palestinian families and the Palestinian neighborhood.
Okay. Ce cas, le cas de Sheikh Jarrah, est la plus ancienne, la plus longue bataille juridique depuis plus de 1972 en tout cas, devant les tribunaux, ça fait presque 50 ans. L'objectif derrière cette bataille, c'est évidemment de faire partir toute la population palestinienne de ce quartier et d'y implanter 220 unités de logement. Vous pouvez imaginer avec une famille de 4 ou 5 personnes, cela fait plus d'un millier de nouveaux citoyens. Évidemment, ces appartements ne seront pas construits pour des Palestiniens de Jérusalem-Est, mais uniquement pour des populations israéliennes juives, implantées illégalement sur les territoires occupés. Oh, just one minute, Zakaria, I try to complete.
The eviction of Sheikh Jarrah is part of the Israeli forced displacement and ethnic cleansing against the Palestinians in occupied Jerusalem. So it's not only Sheikh Jarrah is targeted by the Israeli policies, but many neighborhoods in East Jerusalem are facing either eviction or demolition.
OK, la cible qui est Sheikh Jarrah n'est pas une cible unique. Elle s'inscrit dans le cadre du déplacement forcé et du nettoyage ethnique de la population palestinienne de Jérusalem-Est, mais elle s'inscrit dans un plan beaucoup plus large qui vise pas uniquement Sheikh Jarrah, pas uniquement Silwan, mais qui vise plusieurs quartiers de Jérusalem de manière à éliminer la population palestinienne, qui est encore majoritaire,
bien que aujourd'hui les colons implantés en toute illégalité, selon le droit international, sont quasiment aussi nombreux à Jérusalem-Est que la population palestinienne, puisque d'un côté on implante des colons juifs et d'un autre côté on chasse la population palestinienne. Yes, Zakaria? Allô?
Allô? Yes, now, you know, now the situation of Sheikh Jarrah, you know, now we are waiting, they are waiting for the court hearing. It will be in the 2nd of August on the Israeli High Court. But now the neighborhood are under a very difficult conditions. The police are closing the neighborhood by barriers, by concrete blockade. So all the neighborhood are closed. Nobody are allowed to enter the neighborhood from outside the neighborhood. Only the people who live in Sheikh Jarrah, they can access out and in. And they harass them. They stop them at the checkpoint. And they harass their children. Even they don't allow the relative of the family to access and to visit their families in Sheikh Jarrah.
Okay. Alors, nous sommes maintenant dans l'attente de l'audience devant la Cour suprême qui aura lieu le 2 août. Mais depuis les derniers événements, eh bien, la population de Sheikh Jarrah vit dans une situation particulièrement difficile. Ils sont harcelés en permanence. L'armée israélienne a installé des blocs de béton à l'entrée du quartier de manière à contrôler toutes les entrées et à interdire les entrées de toute personne qui n'est pas résidente palestinienne de Sheikh Jarrah, y compris les membres des familles. Toute la population est harcelée, y compris les enfants. Et l'objectif étant, évidemment, de les décourager et de leur rendre la vie impossible en attendant l'audience. Ça, c'est moi qui le rajoute, ce n'est pas M. Odeh qui l'a dit.
Yes. At the time, while they don't allow the Palestinians to enter the neighborhood, they allow the settlers to go inside the neighborhood and they kept intimidating, attacking the families, attacking the Palestinian families. They stormed the homes and the police suppress the people there, they arrest the people, they detain the people, they use sound grenade, they use tear gas, and they use the water tank to spread all over the houses, the roads and the cars. It's part of putting pressure on the people there to accept the Israeli plan and to leave the neighborhood.
Okay, Zakaria, pendant ce temps, les colons, eux, sont autorisés à rentrer dans le quartier. Ils intimident les familles, ils attaquent les maisons, ils attaquent les habitants, pardon. Et lorsque ceux-ci tentent de se défendre, eh bien l'armée israélienne intervient en utilisant des bombes sonores, en utilisant des gaz lacrymogènes et puis en utilisant ce fameux camion qui envoie un liquide extrêmement nauséabond, un liquide chimique qui imprègne les vêtements et la peau et qui ne part pas, au contraire, dont l'odeur s'accentue lorsque on tente de se laver, de la nettoyer avec quel que soit le produit. Yes, Zakaria? Do you have some...
So it's not only, I mean, in order to understand what's going on in Sheikh Jarrah, it's important to look at the big picture, what's going on in all Jerusalem. So it's not only Sheikh Jarrah is targeted by the Israeli policies, by the settler movement, but Al-Bustan, Silwan, is one of the neighborhoods that has been targeted as well by the settler movement, by the Israeli Jerusalem municipality, and by the Israeli government. So in Silwan, there are 6 neighborhoods that are either facing demolition or facing eviction.
OK. Pour bien comprendre ce qui se passe à Sheikh Jarrah, il faut bien replacer tout cela dans le contexte global de Jérusalem. Regardez ce qui se passe aussi à Al-Bustan, le quartier de Silwan. Tout ça s'inscrit dans un mouvement global. À Silwan, ce sont 6 quartiers qui sont menacés soit de démolition, soit d'expulsion. Et tout cela fait partie d'un grand mouvement organisé à la fois par les colons, par la municipalité de Jérusalem et par le gouvernement israélien. Yes.
In Silwan, as I said, several neighborhoods. In Al-Bustan, 120 families are facing home demolition. There are home demolition order for all the family. They want to demolish the neighborhood in order to build a biblical park because they believe that King David was walking in this area.
Dans le quartier Al-Bustan de Silouane, ce sont 120 familles, plus de 1000 personnes donc, qui ont reçu des ordres de démolition de leur maison pour construire un parc qui s'appellera le Jardin du Roi David parce que, paraît-il, le Roi David se serait promené à cet endroit-là. 120 familles expulsées pour construire le jardin où un roi se serait promené il y a plusieurs milliers d'années. Yes, Zakaria?
Batn al-Hawa is another neighborhood where there are 700 people that they are facing eviction because they claim that Jewish families were living in this neighborhood before 1948.
Okay. In Beit al-Hawa, ce sont 700 personnes qui sont menacées d'expulsion sous le prétexte que des familles juives auraient habité là et auraient possédé des habitations avant 1948. Yes?
Wadi Yasoul as well is a neighborhood in Silouane where there are 84 families that are facing a demolition order because they want to expand the national park.
In Wadi Yasoul, ce sont 80 familles qui sont menacées de démolition, 84 maisons qui sont menacées de démolition pour une extension d'un parc national. Zakaria, je pense que I think we will have to interrupt because we will arrive at the end of the...
I can't hear you.
Ah, you can't hear me?
Yeah, I can't hear you. Yes, please.
Yes, because it's we are on time. We have to finish the
okay.
report, but we will call you another time and we will speak again about Silouane, about Sher Jarrah.
Can I finish?
Yes.
One-way sentence?
Yeah, finish.
So just to say, there are many neighborhoods that target by the Israelis, all occupied Jerusalem. It's not only, it's Silouane, Sheikh Jarrah, building settlement, home demolition, revoking residency. So all of these are part of the continuous policy that has been going on, not only 54 years of Israeli occupation, but 73 years of Israeli colonization, part of the forced displacement policy and part of the ethnic cleansing policy to create a Jewish majority in the city vis-a-vis a small minority of Palestinian Arab in the city.
Thank you very much, Zakaria Odeh.
Thank you.
We will call you another time, be sure, and we want to have more information about Jerusalem. Thank you very much. Merci. Alors, je traduis les dernières phrases de Zakaria Odeh. Tout cela s'inscrit dans un plan très large de nettoyage ethnique, de déplacement de population depuis les 54 dernières années d'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Jérusalem Est, mais plus largement depuis les 73 ans de colonisation de la Palestine par les sionistes au départ et par les autorités israéliennes par la suite. C'est tout ce plan global de rendre les Palestiniens une minorité, en particulier à Jérusalem, contre lequel la population lutte et que nous sommes appelés à soutenir, bien évidemment. Nous rappellerons régulièrement Zakaria Odeh, mais d'autres organisations aussi à Jérusalem, pour parler de la situation et pour suivre de très près ce dossier. Nous appellerons aussi dans d'autres émissions, peut-être à la rentrée, des artistes, des journalistes, des personnalités qui vivent tant à Gaza qu'à Haïfa, car nous le rappelons, avant les vacances, l'objectif pour nous à Marseille, c'est bien d'avoir un jumelage de notre ville avec la ville de Gaza, notre face-à-face de l'autre côté de la Méditerranée, développer les liens avec Gaza, mais aussi développer les liens avec une partie de la population de Haïfa, ville avec laquelle Marseille est jumelée depuis 1958. Et depuis 1958, c'est-à-dire depuis 63 ans,
la partie palestinienne de Haïfa est totalement ignorée. Et pourtant, chez les Palestiniens de Haïfa, mais aussi chez les Israéliens anticolonialistes de cette ville, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de liens à créer avec eux. Donc, retrouvons-nous prochainement pour parler de tout cela et pour parler de Gaza, de Haïfa, de Jérusalem et de tout ce que nous avons à faire, nous, Marseillais, avec ces populations qui veulent la même chose que nous, la justice, l'égalité et le respect du droit local et du droit international. Merci à vous. Nous sommes toujours sur Radio Galère 88.4. Un grand merci à Sidi pour la technique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour Une heure en Palestine. Bintish Shalabi.